Paula,
Vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices, et bienvenue sur ce 12e chapitre du tome 2 de Polar Vin et Compagnie. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec l'énigmatique Lionel et la toujours fringante Michel qui viennent nous parler d'une nouvelle activité que va lancer l'association Cap Polar Sud-Aveyron, un concours de nouvelles. Alors Michel, tu es l'experte parce que tu as déjà participé à un concours de nouvelles, une fois. En fait, c'est une nouvelle, juste pour rappeler ce que c'est, tu peux...
Oui, alors une nouvelle, c'est simplement construire une histoire complète avec un début, un milieu et une fin. Donc il faut qu'il y ait une intrigue, une action et à la fin, sa résolution. Alors, comme c'est très court, en général, une nouvelle, ça peut aller entre 2 pages et puis 30 pages pour les auteurs les plus aguerris. En général, le héros est immédiatement plongé dans une scène d'action. Donc, il peut y avoir du suspense, etc. Et le but, c'est de produire, en quelques pages, une sensation et même un choc à la fin. Dans une nouvelle, la chute est très importante.
Oui, souvent, il y a une chute qui surprend.
Oui.
Et tu pourrais nous redire, là, tu nous as dit tout à l'heure en préparant l'émission, la nouvelle la plus courte.
Ah, celle que j'ai entendue, je ne sais plus quel auteur l'a prononcée, c'est « Le dernier homme vivant sur la terre était assis à son bureau. Quelqu'un frappa à la porte. »
Tadam. Hemingway aussi avait fait, bah, c'était pas vraiment une nouvelle, il avait dit... Après avoir bu quelques bourbons, sans doute, avec des copains auteurs, il avait dit « Mais moi, je suis capable de raconter une histoire en six mots, et ça donnait quelque chose comme à vendre souliers de bébé jamais servi. » Quelque chose comme ça, enfin bon. Voilà. Alors, Lionel, donc les nouvelles, donc là, on a vu un petit peu ce que c'est sur un sujet général, mais là, on ne va pas demander aux gens d'écrire n'importe quelle nouvelle. Il y aura une thématique.
Oui, bah, la thématique, évidemment, c'est le genre policier, noir ou thriller. La nouvelle que vous allez nous proposer devra comporter un titre. Et il y a une contrainte, hein, parce qu'on aime bien les contraintes. Le texte devra obligatoirement commencer par une phrase, qui est celle-ci. Avec une bande de bras cassés pareil, pas étonnant que ça ait tourné à la béchamel infernale. Et ça devra se terminer par une autre phrase imposée qui pourra venir, soit en dernière phrase, soit à 2-3 phrases avant, c'est pas grave. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
Oh. La phrase de lancement, elle donne déjà un peu une idée du style, non ? J'ai l'impression.
C'est deux styles complètement différents, mais justement, c'est intéressant. Il va falloir vous creuser la tête, quoi. Donc, c'est pas très long, hein, on vous demande de nous envoyer des nouvelles de 2 à 3 pages, à 4, recto seulement.
Après, je vois qu'il y a un format, c'est très technique, là.
Oui, le format, c'est en police Arial 12, interligne 1-5, marche 2-5, paginé, et il faudra l'envoyer en 2 exemplaires.
Tout le monde peut participer au concours, Michel ?
Tout le monde peut participer, sauf bien sûr les membres du jury qui vont classer les nouvelles.
Et a priori des auteurs, vous faites écrivains amateurs.
Oui, plutôt des écrivains amateurs, bien sûr.
Ceux qui enverront ces nouvelles devront consulter le règlement, où tout est résumé et répertorié. Sur le site.
Ouais, pour les auditeurs et auditrices, on mettra le lien sur la page de présentation de l'émission, hein, sur radiolarzac.org. Vous allez sur émission, Polar Vin et Compagnie.
Épisode 12.
Épisode 12,
saison 2.
Saison 2. Il y aura un lien qui vous permettra de lire ce règlement, effectivement, parce qu'il y a quand même des choses assez techniques. Il y a, je ne sais pas, les participants en parlaient, bon, on a dit effectivement amateurs qui ne sont pas dans le jury. Il y a des limites d'âge ou pas ?
Oh, pas du tout.
D'accord.
Il faut que la personne soit intéressée pour construire une nouvelle entre ces deux phrases, quoi.
Les enfants en dessous de 6 mois sont interdits, hein, quand même.
Surtout s'ils ont des chaussures qui n'ont pas servi. Alors, on est dans l'anonymat, parce qu'il y a un jury. Alors, déjà, de qui est composé ce jury ?
Ce jury sera composé par des gens qui ont appartenu au jury du prix Robin Cook.
D'accord.
Ou qui y appartiennent encore.
Et oui. Et oui, qui appartiennent au jury du prix Robin Cook, voilà, qui est organisé par l'association.
Donc, ce sont des gens qui savent lire.
Oui.
Et pour envoyer son œuvre, comment on fait ?
Il faudra envoyer son œuvre en deux exemplaires à la librairie Syllab, concours de nouvelles, 14 rue du Mandarou, à Millau, 12 100 Millau. Il y aura une autre enveloppe plus petite, fermée, etc. Mais ça, vous trouverez ça dans le règlement.
Et oui, parce qu'il faut quand même avoir le nom de la personne.
Voilà, bien sûr.
Parce qu'il ne faut pas qu'elle écrive, il ne faut pas qu'elle signe sa nouvelle,
bien sûr.
Voilà. Il faut qu'elle mette ses coordonnées dans l'enveloppe qui sera scellée.
Voilà.
Les dates maintenant, ça commence quand ? Est-ce que c'est déjà lancé ? Et est-ce qu'il y a une date limite pour envoyer les nouvelles ?
Alors, ce n'est pas encore vraiment lancé puisque c'est la première fois qu'on en parle. Je pense qu'il faudra envoyer ces nouvelles avant le 31 août 2025, cachet de la poste faisant foi. Et normalement, les résultats seront annoncés le 20 septembre sur le site internet de l'organisation et par mail aux participants. Et une remise de prix sera effectuée le 27 septembre 2025 lors d'une journée organisée par l'association. Donc ça sera certainement à la médiathèque de Millau.
Oui, parce qu'il y a une grosse journée prévue, là, le 27. Avec notamment nos amis de 813, de la revue 813, qui viendront nous faire déguster en quelque sorte des polars et des romans noirs, puisque ce sera autour de la nourriture dans les polars.
Voilà, avec dégustation réelle.
Ok. Je rappelle que ce concours de nouvelles, si vous voulez accéder au règlement, vous retrouvez le lien vers la page du règlement sur le site radiolarzac.org, émission Polar Veil Company, numéro 12, saison 2. Et on vous invite évidemment à participer. Michel, tu veux rajouter ?
Oui, que ce règlement sera bientôt disponible dans toutes les médiathèques, bien sûr.
D'accord. Oui, les médiathèques habituelles avec lesquelles,
voilà.
Donc Millau, Sainte-Afrique, ouais. Les médiathèques rurales, toutes celles en tout cas qui déjà participent au prix Robin Cook et puis sera élargi. On trouvera aussi sur notre page Facebook et bientôt sur notre blog. Ok, merci beaucoup à vous deux et puis on attend les résultats.
Rien à vendre, j'ai rien à vendre. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur qui, en fait, c'est du dernier roman d'un auteur, Tonino Benacquista, qui a publié au départ 4 polars qui ont été très remarqués, primés et même adaptés au cinéma. Je les cite, La Madone des Sleeping, Trois carrés rouges sur fond noir, La Comédia des ratés et Les morsures de l'aube. Ce sont des polars qui ont été publiés dans la série Noire ou chez Rivage Noir et qui datent des années 90, aux alentours des années 90. Donc depuis, Tonino Benacquista a un petit peu évolué et puis est maintenant édité dans la collection Blanche de Gallimard. Il a publié une douzaine de romans. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de son dernier roman qui n'est pas un polar, mais qui est intéressant quand même à lire. Donc, ça relate les réflexions d'un éditeur au bord de la faillite, qui sont des réflexions sur l'écriture, les auteurs, les petits travers de chaque auteur, mais aussi des réflexions sur le monde d'aujourd'hui entièrement tourné vers le commerce et son pendant, la rentabilité érigée en déesse totalitaire. Si l'ambiance assez sombre du livre pourrait être qualifiée de pré-apocalyptique, son style et son humour en font par contre un petit bonheur de lecture. On peut y savourer anecdotes, situations grand-guignolesques, au milieu d'analyses philosophiques sur la teneur et le rôle de la littérature d'hier et d'aujourd'hui dans l'évolution du monde. C'est donc une pause salvatrice dans le sérieux et l'amorosité de l'édition contemporaine. Donc, son titre, c'est « Tiré de faits irréels ». C'est publié chez Gallimard, dans la collection Blanche. 185 pages, ça ne va pas vous fatiguer trop. Et voilà.
Merci Lionel pour cette découverte. Pour moi, c'était une découverte. Et nous retrouvons Florent, qui va nous présenter, dans une nouvelle rubrique avec une nouvelle virgule, un premier roman.
En 1455, Johannes Gutenberg a imprimé la première Bible.
Mais ne recommence pas, hein, sinon...
Je vais briser tes os ! Je vais boire ton sang !
Et toujours comme ça, la première fois.
Bonjour à tout le monde, aux auditrices, aux auditeurs et à tous les autres pour ce deuxième entretien de notre cycle consacré au premier roman policier, édité cette année en 2025. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Paul Richardot, PDG des Parfums Violets et auteur d'un patch-turner qui énerve tout le monde, comme disent nos amis québécois, pour son premier polar, donc édité chez Lattès, Fragrantia. Bonjour Paul Richardot et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et surtout merci de m'accueillir.
Alors, ça nous fait très plaisir, en tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous accueillir. J'ai parlé en introduction de premier polar, j'aurais pu dire premier roman. J'aurais pu aussi parler de roman d'anticipation, mais c'est un polar. Il y a une enquête, il y a un crime, il y a un flic, il y a une victime. C'est un polar, mais pas seulement. Je vais vous faire rapidement un pitch du scénario de ce polar, ou de l'intrigue, qui est tout à fait étonnante et tout à fait originale. Donc, le SVM, c'est une substance psychotrope qui permet à la société Fragrantia de faire revivre à quelques clients privilégiés leurs souvenirs les plus précieux. Alors, Fragrantia, qui est le nom de l'entreprise qui donne le titre au roman, c'est un patron, et c'est surtout un bras droit du patron, ou une bras droit, Nora. C'est des olfates, dont Elias, qui est aromathérapeute, et olfates putatifs, qui donc cherche à travailler, ou espère travailler chez Fragrantia. Voilà. Ce roman va entraîner Elias, qui est formé par Alain, personnage très, très important, à mon avis, dans une enquête policière, parce qu'un policier, en fait, va demander l'aide de Fragrantia pour résoudre un crime. Alors je dirais que, plus encore que l'intrigue elle-même, qui déjà est fascinante, ce qui est vraiment, à mon avis, unique, c'est l'articulation entre pouvoir et impuissance dans les relations entre les personnages. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je me demande, Paul Richardot, si finalement le parfum, qui est votre milieu professionnel, n'est qu'une excuse pour vous pour mettre à jour des relations humaines, des rapports de pouvoir en entreprise. Est-ce que c'est juste une excuse, le parfum ?
Alors, c'est pas une excuse, mais vous l'avez très bien mentionné, il y a toujours des rapports de pouvoir et l'industrie du parfum n'en est pas exemptée. Et pour y avoir fait des stages, pour y évoluer, en tout cas dans le monde de l'entreprise, j'ai pu être témoin de ces rapports. Je dirais pas jusqu'au conflit, mais il y a toujours des forces qui sont en jeu. Et je trouvais ça très intéressant de parler du monde du parfum, de parler du monde des odeurs. Finalement, ça se marie très bien. C'est pas une excuse, mais c'était à mes yeux nécessaire.
Alors, c'est vrai que la base du roman, c'est un roman policier, mais cette histoire aurait pu être un roman d'aventure ou d'anticipation. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé plutôt à en faire un roman policier, ou en tout cas à mettre une enquête criminelle au cœur du roman.
C'est toute l'ambivalence de la société Fragrantia qui m'a donné cette idée, parce que c'est une société secrète, mais qui a besoin de clientèle. Donc déjà, c'est très difficile d'être secret et en même temps de proposer un service. Et en plus, la deuxième chose qui rend Fragrantia aussi particulière, c'est que c'est une société qui, pour rester secrète, c'est très difficile dans le monde actuel. Un monde où il faut tout savoir sur tout le monde tout le temps, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec la surmédiatisation. Une société qui génère des millions et des millions d'euros ne peut pas rester secrète très longtemps. En tout cas, c'est très difficile. Et donc, une des solutions qu'elle a trouvées pour rester secrète, c'est de travailler main dans la main avec la police, qui, en échange d'une protection, entre guillemets, dans ses activités, demande de l'aide pour certaines enquêtes. Donc, c'était pour moi évident que la police devait être impliquée d'une façon ou d'une autre pour que Fragrantia perdure.
Oui, alors
en tout cas, qu'il soit associé.
C'est vrai que le côté secret de Fragrantia, qui rajoute à l'intrigue, fait que ça vous permet de réaliser des twists assez intéressants dans l'histoire, mais pas seulement sur les événements, aussi sur les personnages, je trouve. Est-ce que vous avez été inspiré par des caractères que vous avez croisés dans la vie, professionnelle ou ailleurs, dans votre vie sociale en général ?
J'ai souvent vu qu'on prenait, souvent dans notre entourage, les écrivains vendent un peu leur entourage. Mais y a certes, je me suis inspiré du monde qui m'entoure, mais aussi de mes lectures. Il y a des archétypes, il y a des gens qu'on voit, qu'on revoit. Ce que je voulais surtout, c'était des gens qui étaient à un certain niveau un peu fêlés. Ils avaient tous quelque chose d'humain et de très humain, cette ambivalence où ils sont pas manichéens, bien mal, qui sont beaucoup plus nuancés. Et ça, c'était très très important pour moi.
Et donc vos influences littéraires, quelles sont-elles ?
Je dirais, c'est une réponse mi-figue mi-raisin, mais diverses et variées. Il y a de la SF, il y a du polar, il y a du roman plutôt contemporain, il y a un peu de tout. Il y a aussi mes références, il y a aussi autre que la lecture, il y a dans les séries, dans les films. Quand j'écris, j'ai aussi ce côté très visuel de la scène. Je décris ce que je vois, en fait. C'est pour ça que ça donne souvent, on m'a pas reproché, mais on m'a dit que mon texte était très cinématographique, parce que je décris beaucoup ce que je vois, et donc je vais aussi être influencé par des choses que j'ai déjà vues. Mais des personnages divers et variés. D'ailleurs, le personnage d'Ali Abad, stéréotypé à fond du flic sur le retour, ouais. Désabusé. Mais pour ne pas prendre le lecteur pour pas lui dire, écoutez, ben, j'avais la flemme de trouver un archétype différent. Dès le départ, j'en joue, j'en rigole, en mode, bah, en fait, ça lui ressemble pas. Pourquoi il joue à un flic de série B ? Et en fait, ouais, c'est un type qui a des démons, qui est affecté par une situation. Et donc, il tombe dans cet écueil du flic de série B.
Ouais, c'est vrai qu'il est assez typique, je vais dire. Voilà. Il y a quelque chose aussi de fascinant dans votre roman, c'est les termes techniques que vous employez, donc qui pourraient complètement nous noyer ou être peut-être même un repoussoir. Et voilà, c'est assez étonnant aussi que vous n'ayez pas eu peur d'utiliser des mots qui sont vraiment issus de votre environnement professionnel. Alors, c'est un choix personnel ou vous n'avez pas pu vous empêcher de le faire. Comment ça se fait ?
Alors c'est un choix délibéré, ouais. Je disais tout à l'heure que j'avais quelques références dans la science-fiction et comme je disais, j'avais quelques références dans le monde de la science-fiction et notamment un genre qui s'appelle la hard SF et donc la science-fiction difficile. Et tout est dans le nom parce que ils vont par exemple s'amuser pendant trois chapitres à décrire le fonctionnement d'un moteur de fusée. Donc c'est indigeste pour le lecteur, mais en fait finalement il y a cette chose qui, quand on accepte d'abandonner, de se laisser aller et de se dire bah je comprendrai pas tout, eh bien c'est très, ça devient très immersif. Et j'ai trouvé que c'était une technique super intéressante. Je suis pas allé jusqu'à partir à raconter pendant 20 chapitres comment on va formuler un parfum, mais parsemé ci et là, je trouve que le lecteur est plus facilement immergé dans l'histoire. C'est un style que j'ai trouvé super intéressant. Et bien sûr, il faut faire attention à bien expliquer. Même si je donne des mots compliqués, il faut quand même qu'on comprenne où est-ce que je voulais aller et que ce sont des mots qui existent aussi. À part, bien sûr, l'ASM, qui est cette substance volatile mémorielle, ou les olfates, qui est un mot que j'ai emprunté parce que chaque métier a son vocabulaire. Donc, il fallait que j'invente un vocabulaire pour ce métier. Mais c'était de façon très sporadique. Ça reste ancré dans le réel et c'était une façon pour immerger le lecteur.
Oui, alors c'est vrai que la substance volatile mémorielle, c'est pas mal hein, comme nom. Olfate, je pensais que ça existait en fait, hein, pour tout vous dire, mais c'est très bien trouvé. Donc ça fonctionne très bien. Quelle odeur à la SVM ?
Ouais, allez, on va partir sur les odeurs très aldéhydées. Voilà, un mot scientifique un peu barbare, les aldéhydes. Si vous avez posé votre nez une fois sur le Chanel numéro 5, vous voyez ce que sont les aldéhydes. C'est un bouquet floral très chimique, en tout cas qui a des notes ça ne sent pas la nature. Voilà, c'est pour être très vulgaire. Des notes montantes assez ferreuses partent dans les aigus, je dirais. Et les aldéhydes ont cette facette assez chimique qui convient parfaitement à la SVM.
Ok, bah là j'ai appris quelque chose. Alors. Je vais pouvoir faire mon malin dans les dîners mondains. Alors quels sont vos projets littéraires, vos projets futurs, si vous en avez ?
Eh bien, j'avais pensé à Fragrantia en 2 tomes. Donc, je suis sur le coup pour le 2e, parce que même si j'aime que les histoires se terminent, j'ai pas du tout envie de laisser le lecteur sur sa fin. J'ai quand même laissé un petit tiroir entrouvert qui laisse la place, parce que Elias peut vivre encore certaines aventures. Et surtout, il y a quelque chose que je n'ai pas raconté dans la manipulation, enfin les souvenirs olfactifs. J'ai parlé de tous les souvenirs positifs, mais il y a son penchant inverse, enfin ouais, son opposé. Et donc ça me laisse la place pour un deuxième tome qui je suis très très pressé de finir.
Oui, bah c'est un univers tout à fait fascinant. Je pense que ça peut se décliner encore certainement sur plusieurs romans. Alors, Dans notre émission Polar, Vin et Compagnie, comme le titre l'indique, on propose à nos auditrices et auditeurs une suggestion musique et vin pour accompagner la lecture du roman. Alors, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais comme ça, au débeauté, vin et musique pour accompagner Fragrantia.
Vin, je pense un vin blanc, un Chablis ou un Sancerre. Ça pourrait être pas mal, faut pas tomber dans le rouge. trop terroir. Là, on est dans un monde un peu plus aérien, on va dire. Je trouvais ça pourrait être pas mal. Un vin blanc et une musique. J'écoutais beaucoup de musique pendant l'écriture.
D'accord.
Et c'était des musiques sans paroles, mais ça s'y prête plutôt pas mal. Des musiques un peu d'ambiance, vous voyez, musique d'ambiance assez calme, ça permet de libérer l'imaginaire. Il y avait aussi une autre partie que je faisais, c'était enfin ça je vais pas le recommencer, mais parfois ça m'est arrivé d'écouter des bruits blancs. C'est pas si vous voyez, c'est bah le bruit que fait une radio entre deux stations.
D'accord.
Cette friture, et ben ça pour la concentration, c'est fou.
Il faut donner le truc aux étudiants. Il y a une très bonne chanson de Dominica qui s'appelle « Le bruit blanc de l'été ». Je ne sais pas si vous connaissez.
Non, je ne connais pas.
Je le conseille si vous aimez ou pas d'ailleurs, Dominica. C'est une très belle chanson.
Okay.
Voilà. Ben, écoutez, notre petite demi-heure en compagnie de Paul Richardot s'achève. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à l'émission, Monsieur Richardot, et je souhaite longue vie à votre roman Fragrantia, édité chez Lattès, que je me permets de conseiller à toutes et à tous. Voilà, d'ailleurs, juste une dernière chose, Fragrantia, ça pourrait très bien être le nom d'un parfum, vous ne trouvez pas ?
Oui, complètement, complètement, c'est un monde très évocateur, et on est dans cette, dans ce monde-là. Mais merci surtout de m'avoir accueilli, de m'avoir donné la parole et merci d'avoir aimé le roman. C'est le plus important en fait.
Eh bien, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment tout un univers. Merci beaucoup, Paul Richardot.
Merci.
Il y a tant de peine qui court dans ce pays, des plaintes qu'on n'entendrait de loin si on pouvait. Mais il y a tant de bruit ici, on entend plus que lui, le bruit blanc de l'été. Une guerre a repris plus au sud, oh, c'est loin, dans un silence parfait. Pourtant, on entendrait. Mais il y a tant de bruit ici, on entend plus que lui, le bruit blanc de l'été.
Il y a trop de gens qui savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Nous sommes avec Cécile Heurtaud. Bonjour Cécile.
Bonjour, ça va ?
Ça va. Et alors, nous, aujourd'hui, on découvre un nouveau métier dont on n'a pas encore parlé dans Polar V Compagnie. C'est le métier de sommelière, enfin sommelier-sommelière. Consiste en quoi exactement, ce métier ?
Alors, sommelier-sommelière, donc comme tu l'as bien souligné, effectivement, on dit les deux et un petit peu plus le côté masculin, on va dire. Mais ce qui consiste là, c'est tout ce qui sera plutôt côté restauration dans le conseil et au niveau des accords avec des mets plutôt. Mais ça peut aller plutôt en restauration, tout comme aussi également chez un caviste, sommelier, tu peux en retrouver là. Ou comme là dans mon métier actuel où je suis commerciale dans un domaine viticole, mais avec... des petites spécialités dans la sommellerie, et donc ça permet de pousser un peu plus les accords avec
oui,
les vins.
J'imagine que c'est pas facile d'être une jeune femme dans un milieu qui est plutôt masculin.
C'est pas facile, mais en même temps on arrive à trouver notre place. Ça permet d'avoir une approche un peu plus féminine. Tout ça va avoir on a un peu plus de sensibilité, on va dire, que les hommes. Mais après, bon, voilà, il suffit de, comme un peu dans n'importe quel métier où il y aura plus d'hommes, à trouver sa place.
Il y a un diplôme de sommelier ?
Oui, malheureusement pas assez reconnu en France, comme ce que j'ai pu faire. Il y en a différents, mais après, moi, j'ai pu faire une mention complémentaire en sommellerie, donc au lycée Georges Frêche à Montpellier. Et après, je me suis encore spécialisée 2 ans en alternance. Et là, ça, c'est un brevet professionnel en sommellerie. En France, voilà, c'est le brevet professionnel, c'est le plus haut diplôme que je peux acquérir en France. Et malheureusement, c'est même pas, c'est considéré comme un bac plus 2, alors que le savoir derrière est beaucoup plus grand.
Quelles qualités doivent avoir les sommeliers et sommelières ?
Les qualités, c'est avoir la fibre, on va dire, que ça soit du côté avec le vigneron, avec le client dans un restaurant, on va dire le côté un peu relationnel, avoir un peu tout le côté là. Et après, bien évidemment, c'est avoir le palais juste pour trouver bon équilibre entre l'accord, ce qu'on perçoit et ce que les autres perçoivent aussi au niveau de la bouche, quoi, on va dire ça.
Et avec tout ce jargon qui fait rêver parfois.
Parfois, oui, j'ai pu apprendre certains mots, comme caudalie, c'est pour décrire le temps de la persistante aromatique du vin en bouche. Ça s'appelle les caudalies. Je trouvais ça très joli comme,
ouais, c'est très
comme
poétique,
mot, par exemple.
Et alors, par exemple, quand je vais dans mon bar à vin préféré, à Millau, la tenancière me demande toujours, tu préfères un vin minéral ou fruité ?
C'est une très jolie approche, parce que c'est un peu deux opposés au niveau des vins. Là, on parle plutôt des vins blancs. Et ça permet de vraiment savoir ce que veut le client, s'il a tendance à préférer la minéralité. Donc, ça sera plutôt des vins blancs tendus sur la fraîcheur, alors que le côté fruité, ça sera plus le côté gourmand, avec des arômes de fruits du verger, comme les pommes, les poires, ou même le côté fruité d'un abricot ou d'une pêche de vigne. C'est en général pour faire le parfait accord et correspondre au mieux le client. On va lui proposer deux opposés, et c'est comme ça qu'on va savoir vers où il voudra aller.
Alors, je t'ai demandé conseil pour aider le héros de notre roman Fragancia, qui se retrouve au restaurant et le malheureux va être sur un repas très poisson, lui qui a horreur du poisson, lui qui est un nez, mais un nez dans la parfumerie. Donc, à l'entrée, c'était des chimères de poulpe et fleurs de courgettes. Avec quel vin tu l'accompagnerais ?
Avec ça, j'aimerais accompagner, pourquoi pas, un vin là où je travaille. Ça m'a fait penser, le Chimère, un vin un peu particulier. Donc, c'est le domaine La Tour de Gâtigne, situé à Saint-Chapte, où en fait, on fait un vin, c'est en IGP Cévennes, et on est sur 2 cépages différents. On est sur 80% de Syrah et 20% de Viognier, donc du blanc avec du rouge. Et le côté Chimère me faisait penser à ça. C'est un vin rouge, donc c'est assez particulier à accorder avec du poisson. Mais vu le caractère un petit peu du plat, je pense que ça pourrait très bien correspondre, puisqu'on est sur un vin rouge vraiment très fruité et très gourmand. Et donc ça pourrait bien aller.
C'est bien, parce que tu as montré que tu étais aussi commercial.
Ouais. On n'oublie pas là où on est, oui.
Le plat, c'est un homard bleu.
L'homard bleu, c'est un mets qui est très prestigieux quand même. Donc, j'ai envie de partir du côté de Chablis, qui est une appellation côté Bourgogne, et avec Monsieur Dovissa, qui est pour moi le plus beau vin blanc que j'ai pu déguster de ma petite carrière. C'est un vin blanc qui sera plus sur le côté minéral, 100% chardonnay. Assez minéral, mais avec énormément de gourmandise. Et le homard, c'est assez gourmand aussi. Et donc, ça marcherait bien avec.
Et en dessert, un flan caramel parfait, accompagné d'une laitue de mer.
Un dessert assez original. Et j'ai envie de partir en Alsace, dans ma région de cœur, avec le domaine Bodegail. Donc, on va terminer par des bulles. Leur crément se marierait à merveille. Il ne faut pas oublier qu'on fait de très bonnes bulles aussi ailleurs qu'en Champagne. Et l'Alsace fait partie des régions phares où, pour moi, on retrouve une qualité qui est fabuleuse, quelque chose aussi au niveau des terroirs qui est vraiment splendide et qui est très intéressant à découvrir.
Ben, merci Cécile. Et puis, de toute façon, nous, on va trinquer bientôt ensemble.
Hein. Ben, oui,
certains week-ends de juin, qu'on prenne qui pourra.
Et oui, c'est avec grand plaisir en tout cas.
Cécile, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps sur ton travail. Et puis, de grosses bises. Et puis, à très bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Voilà, ce 12e numéro de la saison 2 est terminé. Polar 20 et compagnie, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à participer au concours de Nouvelles Policières. Au revoir Michel.
Au revoir.
Au revoir Lionel.
Au revoir.
Au revoir Laurent. Au revoir Nico et encore merci.
Avec plaisir. Et à dans 15 jours.
Et à dans 15 jours.